Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, bienvenue sur les ondes de CKIA, c'est l'émission Puissance Maximale et il nous faut aujourd'hui, comme à chaque semaine, la puissance maximale. Et nous l'avons, ça tombe bien parce que bien nous avons notre équipe de super puisseux. Est-ce que ça se dit comme ça? Non, ça se dit sûrement pas comme ça. En tout cas, on est très très content de vous retrouver aujourd'hui pour une heure eh bien, de l'émission Puissance Maximale où nous allons parler de d'Ubisoft pour commencer puisque nous recevons Émile Gauthier d'Ubisoft Québec qui va venir nous parler un petit peu de ce qui se passe dans la compagnie d'Ubisoft. Et ensuite, nous avons l'actualité toujours avec Mathieu Place. Mathieu qui est toujours en très très grande forme et qui nous a épluché toute l'actualité de la semaine. Ensuite, eh bien, parce que nous sommes des grands fans et que nous aimons absolument toutes les champions et puis surtout les championnes québécoises, eh bien nous allons directement aller en France pour aller parler avec la grande championne de Counter-Strike, celle qui est notre championne à nous à puissance maximale. Il s'agit de Stéphanie Harvey que nous rejoindrons un petit peu plus tard en onde. Mais avant tout cela, eh bien nous allons passer à la deuxième partie. Écoutez ça, ça va vous donner une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler.
The Eye of Judgment.
Et oui, Eyes of Judgment, et puis nous avons aujourd'hui Vincent Langlois qui va nous parler justement de ce jeu-là. Il s'agit d'un jeu, d'un vrai jeu, qui se joue sur la PS3. Bonjour Vincent, comment vas-tu?
Très bien, merci.
Donc Eyes of Judgment, moi pour l'avoir essayé, je peux tout de suite dire à tous nos auditeurs qu'il s'agit d'un jeu un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un mix. On est en fait dans la période où on essaye de mélanger vidéo avec tout ce qui peut être gadget possible et imaginable. On avait Guitar Hero avec une guitare, on a Rock Band avec la batterie puis le micro, on a d'autres jeux de ce style-là. Et puis là aujourd'hui, un nouvel accessoire vient d'apparaître, il s'agit des cartes à collectionner dans les jeux vidéo.
Tout à fait, basé un peu sur le concept de Magic qu'on a connu dans le milieu des années 90. The Eye of Judgment, c'est un jeu qui est sorti quand même depuis 3 mois, donc à la fin du mois d'octobre, publié par Sony et également développé par Sony, les studios japonais de Sony. C'est un jeu qui est de type fantasy, c'est un jeu de cartes, un jeu de bataille de cartes, Et ça joue de 1 à 2 joueurs sur la console PlayStation.
Sur la PlayStation, et puis ça prend évidemment une petite caméra pour pouvoir regarder ce qui va se passer sur un plateau qui n'est pas virtuel cette fois-ci, mais un vrai plateau qui se place sur, le, sur la table.
Tout à fait. Ça prend la caméra qui est la PlayStation Eye. Et en fin de compte, on, dans le jeu, quand on l'achète, on a justement ce petit matelas-là où en fin de compte, cette pièce d'étoffe sur laquelle on retrouve la grille de jeu, qui est comme une grille de tic-tac-toe, donc 3 par 3, 3 cases par 3 cases. Et on met la PlayStation Eye sur un socle, en fin de compte, qui est comme une petite tour. Et cette caméra-là capte toutes les cartes qu'on met sur le tapis de jeu.
Donc, en fait, c'est un système de combat de cartes. C'est-à-dire qu'on va chacun avoir notre deck de cartes, puis on va essayer, avec la main qu'on va obtenir à tour de rôle, de faire les meilleures combinaisons possibles pour aller, je dirais, stratégiquement se placer sur chacune des cases.
Oui, chaque joueur a 30 cartes à jouer, et les cartes incluent des cartes de créatures, des cartes de sorts. Et c'est au joueur de définir comment il veut jouer avec ses cartes. Donc, c'est à lui à composer ses cartes, son paquet de cartes. Et le but du jeu, tout à fait, c'est de, sur les 9 cases, c'est de remporter 5 cases sur les 9 à la fin. Et ça peut prendre plusieurs tours. À chaque tour, c'est un joueur qui joue. Et je me suis rendu à des parties de 25 tours, là, sans arrêt. Là.
Puis c'est quand même assez bizarre quand même d'essayer de faire un mix entre un jeu de cartes à collectionner. Pour ceux qui savent, c'est tout simplement d'aller chercher finalement, comme dans Magic, exactement, là, pour ceux qui connaissent Magic, c'est d'aller chercher évidemment les meilleures combinaisons. Mais évidemment, il y a aussi tout le lien avec la collection, c'est-à-dire qu'on va chercher des nouvelles cartes, on peut réacheter des nouveaux bundles de cartes au fur et à mesure pour essayer d'étoffer ses mains.
Oui, avec le jeu en partant, on reçoit un paquet de cartes de départ qu'ils appellent avec un paquet de cartes extra. À chaque fois qu'on achète un paquet de cartes, c'est 8 cartes par paquet qu'on reçoit. Ça se détaille à peu près entre 4$ et 5$, ça dépend aux endroits où on les achète. Les cartes, bien sûr, comme dans Magic, certaines sont qualifiées de communes, non communes, de rares, d'ultra rares. Donc, ça devient, oui, un jeu de cartes pour jouer avec ses amis ou quoi que ce soit, mais également un jeu de collection, ce qui veut dire qu'on achète, et on achète, comme tu disais si bien, Sébastien, et on peut dépenser beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans.
Ça, c'est un peu le but, finalement, pour toutes les compagnies, d'aller nous chercher là où ça nous fait du bien, c'est-à-dire au niveau du porte-monnaie. Mais dis-moi, moi, pour l'avoir joué, je sais que la jouabilité est vraiment très agréable, c'est-à-dire que c'est un jeu, quand même, dans lequel on rentre très rapidement, tout simplement parce que le graphisme est superbe, c'est-à-dire qu'il y a quand même le concept de faire apparaître les cartes sont reconnues, et puis une fois qu'elles sont reconnues, automatiquement on les voit apparaître à l'écran, puis ça c'est souvent sous la forme de gros monstres énormes, monstrueux, qui donnent le goût justement de fesser dans tout ce qui bouge, puis c'est un petit peu ça aussi le petit côté magique du jeu.
Tout à fait. En fin de compte, le but du jeu, c'est d'éliminer son adversaire sur les cases. Chaque carte représente une créature, chaque créature fait partie d'un environnement, disons, un élément qui est attaché à cette créature-là. Les éléments de base, bien sûr, comme dans tous les bons jeux de fantasy, l'eau, le feu, la terre, le vent, et également le biolithe qui est rajouté dans ce jeu-là, qui, en fin de compte, le biolithe fait partie de ce monde qu'on a imaginé. Ce sont des créatures de métal, souvent automatisées, qui lancent des missiles et choses comme ça. Donc, le but, vraiment, c'est de remporter 5 cases sur 9 en plaçant les cartes dépendant d'où se trouve notre adversaire. Et aussitôt qu'on a deux cartes qui sont une à côté de l'autre, entre adversaires, automatiquement le combat se fait entre nos deux créatures.
Donc c'est un très bon jeu. C'est un jeu qui se chiffre à combien au niveau du prix?
Environ 69,99. Parfois jusqu'à 79, dépendant. Là. 69,99, on peut avoir le jeu de base sans la caméra, mais avec le bundle de 79, on peut avoir la caméra. La première journée que c'est sorti, ça se détaillait à 59,99. Moi, je l'ai acheté la première journée. Il était à 59,99 en même temps que la nouvelle PlayStation Eye soit sortie. Et même la PlayStation Eye était à 59. Donc, il y avait un petit problème de prix à ce moment-là. Quand je l'ai acheté, même le détaillant chez qui je l'ai acheté, il a dit, bon, tu as compris un peu l'astuce d'acheter celui de avec le PlayStation Eye. J'ai dit, oui, tout à fait. Mais après ça, ils ont changé leur prix.
Dis-moi, est-ce qu'il est accessible uniquement pour la plateforme PlayStation 3 ou est-ce qu'on peut l'avoir pour la Xbox?
Présentement, c'est seulement la PlayStation 3, bien sûr, parce que c'est Sony qui fait le jeu.
Et puis je pense que Christian veut rajouter quelque chose, non?
Non, mais j'étais un peu un fanboy de la PS en général, donc oui.
À chaque fois qu'il entend le mot PS ou PS3, automatiquement, il lève la main, ce que vous ne pouvez pas voir malheureusement à l'antenne pour l'instant, mais c'est vraiment parfait. Donc, pour y avoir joué, tu lui donnerais à peu près combien si tu avais à côté ce jeu qui s'appelle Eyes of Judgment?
Moi, je lui donne un 8 sur 10. Pour moi, c'est un bon jeu. C'est certain que au niveau, tu parlais du graphisme, c'est certain que pour un jeu qui représente un jeu, disons, de plateau, de table, on ne peut pas faire grand-chose sinon que de faire apparaître nos petites créatures à l'écran. Ça ne peut pas être un jeu à la Call of Duty dans lequel on se déplace puis on voit quasiment le monde réel. Mais à 8 sur 10, moi, je suis satisfait. C'est un jeu que je ne peux m'empêcher de jouer quand je vais en ligne, parce qu'on peut jouer en ligne aussi. Pas seulement un contre un à la maison avec quelque chose à boire ou quoi que ce soit. On peut le jouer en ligne avec des gens, donc c'est vraiment intéressant.
On peut jouer avec des gens, ce que nous ne connaissons pas. C'est parfait, ça. J'aime beaucoup ça, le concept de ligne. C'est vraiment parfait. Merci beaucoup, Vincent Langlois, pour cette petite rubrique. J'imagine que tu nous reviens sûrement la semaine prochaine avec quelque chose d'autre encore.
Bien sûr, oui, je vais voir avec l'horaire, mais je devrais être de retour, oui.
Tu sais que bientôt, nous allons recevoir B-Movies, que j'espère que tu vas pouvoir essayer.
Super.
Bon, ben c'est génial. On se dit donc à la semaine prochaine. Puis ben, nous, en attendant que Émile Gauthier arrive, eh bien, nous allons passer une petite pause musicale.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, vous êtes toujours sur les ondes de Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA et en rediffusion sur lepetitpeuple.fr. Aujourd'hui, eh bien, ça serait un petit peu difficile de passer à côté de l'édifice qui porte leur nom. Il s'agit ici de Ubisoft, qui est très, très bien placé, puisqu'il est, il est placé sur l'avenue Charest. Puis, bien évidemment, c'est un édifice, et puis c'est une compagnie qui est très bien implantée ici sur la capitale. Derrière ces murs, jalousement gardés par une sécurité digne de Guantanamo, on y crée eh bien, des jeux vidéo, évidemment. Pour éclaircir le mystère qui se cache derrière ces murs, nous recevons Émile Gauthier, directeur des relations publiques chez Ubisoft Québec. Bonjour Émile.
Bonjour Sébastien.
Oui,
ça va bien?
Bonjour, oui, ça va très 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 bien. Ubisoft, en fait, c'est une compagnie qui à la base est française, mais c'est aussi et surtout un des leaders mondiaux des jeux vidéo qui est venu s'installer ici à Québec en 2005, si mes informations sont bonnes.
Oui, les informations sont très bonnes. Merci. Par contre, je vais juste corriger le tir. Là. Je ne suis pas directeur des relations publiques. Je suis coordonnateur aux communications, mais il n'y a pas de problème.
C'est un très beau titre aussi.
Oui, c'est
félicitations
sûr. Félicitations
quand même.
Parce que si la directrice en question nous entend en ce moment, elle va peut-être se dire que quelque chose qui a mal circulé.
Donc, vous êtes installé en 2005 à Québec. Ça fait maintenant 2 ans et demi que vous êtes ici.
Exact.
Quel est le bilan, finalement, que l'on peut tirer au bout de ces 2 ans et demi d'installation à Québec pour Ubisoft?
Bien, en fait, le bilan, grosso modo, je dirais que c'est extrêmement positif dans la mesure où, au début, on était... moi, j'étais même pas là, mais il s'agissait d'une petite équipe d'une vingtaine, voire une trentaine de personnes. Puis maintenant, on est rendu aux alentours de 180. Donc, c'est très bien là, à ce niveau-là. Au début, ils avaient annoncé 200 emplois sur 5 ans. Puis, en fait, tu l'as dit, là, ça fait 2 ans et demi environ qu'on est ici. Puis, on va atteindre là, dans les prochains mois, prochaines semaines, là, notre objectif qu'on s'était fixé sur 5 ans. Donc, au point de vue main-d'œuvre, je dirais que nos objectifs sont atteints, même dépassés. Puis, au point de vue des jeux, eh bien, jusqu'à maintenant, on a fait une dizaine de jeux différents. Donc, sur de multiples consoles, donc sur 2 ans, c'est quand même assez intéressant.
Peux-tu justement nous donner un petit peu la liste des jeux que vous avez fait à Ubisoft juste à Québec?
Oui, bien juste à Québec, le premier jeu qu'ils ont fait, moi j'étais pas là, c'était Rainbow Six Critical Hour, donc sur la Xbox 1, donc la première Xbox, qui était sûrement peut-être un des derniers jeux là, vers la fin de... Bien, c'est sûr que la console n'est pas encore désuète, mais je veux dire, la production a quand même ralenti à ce niveau-là. À part ça, j'y vais vraiment de mémoire. Il y a eu Open Season, donc un jeu tiré d'un film de Sony Pictures Animation, Les Rebelles de la Forêt. À part ça, il y a eu Surf's Up, donc encore un jeu tiré de Sony Pictures, donc les rois de la glisse, les pingouins qui font du surf, là, vous avez peut-être vu passer
oui, tout
ça.
À fait, oui.
Il y a eu TMNT, donc un jeu adapté du film des Tortues Ninja. Il y a eu Rainbow Six Vegas sur la PSP, donc la console portable de Sony qui a été développée à Québec aussi. Il y a eu Cranium Kabuki, dont vous avez parlé il y a quelques semaines aussi, qui est sorti en décembre. Puis aussi, le jeu que je vous ai apporté, peut-être qu'on peut en parler tout à l'heure, ça c'est mon coach personnel, J'améliore mon anglais.
Oui,
donc, un jeu pour la Nintendo DS.
On en parlera tout à l'heure, c'est une très 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 bonne idée. Donc, dis-moi, Ubisoft Québec, c'est une filiale d'Ubisoft, on s'entend là-dessus? Hein?
Oui, on s'entend.
Est-ce que c'est la plus jeune de toutes les filiales qui se soient développées dans le monde?
En fait, non, c'est pas la plus jeune parce qu'il y en a un qui a été ouvert l'automne dernier à Chengdu, donc en Chine. Chengdu qui est une ville très très technologique en Chine, donc c'est pas le plus jeune, mais c'est un des petits derniers, on pourrait dire.
Est-ce qu'en Chine, c'est un nouveau marché qu'Ubisoft désire développer éventuellement?
Ben, c'est un marché qui est déjà, je dirais, qui est quand même assez assez présent parce que il y a un studio de Shanghai qui est quand même assez assez reconnu, entre autres pour des productions comme Ghost Recon qui sont faits à Shanghai. Donc, okay. Déjà, le studio de Shanghai nous avait déjà bien, bien établi en Chine.
Dis-moi, c'est quand même très agréable de pouvoir recevoir une grosse compagnie Ubisoft comme ça ici à Québec. C'est toujours. Moi, je trouve que c'est vraiment un moteur économique extraordinaire pour la ville. Mais dis-moi, au niveau du gros consortium Ubisoft, mm-hmm. parce que c'est vraiment un gros consortium, comment vous vous situez ici à Québec? Est-ce que vous avez beaucoup d'interrelations, de collaborations avec les différentes filiales? Est-ce que vous êtes complètement, sous contrat pour certains types de plateformes? Comment ça se passe exactement à l'interne?
Ça peut paraître gros comme ça, là, mais une fois qu'on est dedans, là, on se rend compte qu'il y a toute une architecture au travers Ubisoft qui fait qu'on n'est pas si loin que ça, dans le fond. Moi, je peux, dans le cadre de mon travail, puis c'est comme ça un petit peu pour tout le monde, je peux côtoyer par téléphone ou par courriel des gens de partout dans le monde. Donc, si on a besoin d'aide, par contre, par exemple, un animateur 3D qui a besoin d'un truc pour réussir à faire son travail, ben il peut, on a des architectures, que ce soit par l'intranet ou que par d'autres outils, qui peut permettre à cet animateur-là d'avoir facilement un contact avec un animateur au bout du monde qui, lui, a la solution à son problème. Donc, on est loin, mais on est quand même assez proche, là, je dirais. Là.
Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut ici ou est-ce que vous êtes toujours obligé de travailler en collaboration avec d'autres types de filiales comme à Montréal, par exemple, parce qu'on est très proche de Montréal? C'est quand même, elle est un petit peu plus ancienne que vous, la Ubisoft Montréal. Puis en ce moment, ils ont le vent en poupe, avouons-le.
Oui, tout à fait. Mais je te dirais, souvent, on pense un petit peu, on peut penser que le studio de Québec, c'est peut-être le petit frère du studio de Montréal ou de quelque chose du genre. Mais en fait, pour mettre ça au clair, là, à Québec, on est vraiment équipé pour faire un jeu de A à Z. Donc, il y a tous les corps de métier à Québec. C'est les jeux qui sont faits à Québec que je t'ai nommé tout à l'heure. C'est des jeux qui ont été entièrement conçus à Québec. Donc, la conception... de la conception au contrôle de la qualité. Il y a bien juste la pochette puis le disque qui n'a pas été pressé à Québec. Les producteurs sont à Québec, les game designers, tous les corps de métier sont à Québec. Ça peut arriver qu'on s'aide entre nous, qu'autant nous, on peut aider Montréal, que Montréal nous donne un coup de main. Mais à Québec, c'est un studio à part entière de production de A à Z, là, de jeux vidéo.
Là, lors de l'établissement de Ubisoft Québec, on parlait des investissements d'au-dessus de 75 millions de dollars sur 5 ans encore là. Donc, vous avez parlé tantôt qu'il y avait une création de 180 emplois sur les 200 dit il y a 2 ans et demi. Est-ce qu'au niveau des investissements, c'est un peu la même chose en ce moment? Est-ce que vous avez bien investi au niveau de l'avancement technologique?
En termes d'avancement technologique, moi, j'ai pas le nez dans les chiffres là, quotidiennement, mais je peux vous dire que oui, là, c'est des bons investissements là, jusqu'à maintenant. Je pense que ça s'est bien démarqué. Là. Les jeux qu'on a faits se sont très bien illustrés là, à l'international là, jusqu'à maintenant.
C'est quoi vos projets en ce moment que vous avez à l'intérieur de vos bureaux ici à Ubisoft Québec?
En ce moment, c'est une bonne question aussi. On a plusieurs jeux qui sont en développement, mais il n'y a rien d'annoncé. Donc, malheureusement, vous n'aurez pas de scoop aujourd'hui sur...
Plusieurs jeux en termes de chiffres, on parle de 5, 10?
J'aimerais mieux pas m'avancer sur les jeux en conception en ce moment, mais c'est sûr que dans les prochains mois, voire semaines, vous allez en entendre parler. Là, je vais appeler Sébastien particulièrement là, pour lui en parler. C'est simplement pour garder la surprise, mais il y a des bonnes productions là, en ce moment là, qui se trament entre nos murs.
Okay. Je voulais juste rajouter, tu parlais qu'il y avait plusieurs corps de métier chez Ubisoft à Québec. Mm-hmm. Tu parlais que peut-être juste le disque ou le livret qui n'ont pas été imprimés ou quoi que ce soit à Québec, mais est-ce que c'est seulement au niveau de la production vidéo ou, par exemple, les gens qui sont appelés à les écrire, ces livrets-là, à faire la traduction, est-ce que c'est fait à Québec, ça, ou, par exemple, les gens qui font les voix dans les jeux?
Par exemple, en fait, ça peut être... Il y a une partie qui peut être faite à Québec, effectivement, mais vraiment au niveau de la manufacture de l'objet là, ça je pourrais pas vous dire. Je crois pas que ça soit fait à Québec, mais je veux dire, nous on a des bureaux ailleurs qui s'occupent de faire la distribution puis ce genre de travail là. Donc, mais c'est sûr que eux n'ont pas le choix de se baser sur les travaux qui ont été faits par les game designers ici. Tu sais, ça peut arriver qu'une bio de l'équipe soit faite ici, puis par après, ben c'est arrangé de manière à ce que ça soit que ça fitte bien sur l'emballage. Pour ce qui est des voix puis tout ça, ça dépend toujours le jeu où nous, ben tous nos jeux sont disponibles en français. Donc ça dépend toujours où le jeu va être distribué. Donc, dépendamment du jeu, oui, on peut. Nous, on est équipés pour enregistrer des comédiens. Ou Montréal le sont aussi. Ils ont un studio de son très avancé. Si le jeu est disponible aux États-Unis, ben, c'est possiblement qu'il va y avoir des acteurs américains qui vont prêter leur voix là, aux personnages des jeux. Là. Un petit peu comme le cinéma, si on veut.
Style de jeu que vous fabriquez à l'intérieur de Ubisoft Québec, c'est quoi les orientations globales? Est-ce que c'est plus des jeux d'animation, des jeux de films, des jeux d'aventure, ou bien c'est un peu libre en soi au niveau de la créativité?
Ben jusqu'à date, je dirais qu'on a quand même une palette de jeux assez élargie. Là. On se barre pas dans un style en particulier. Là. C'est sûr qu'en ce moment, le marché du jeu s'élargit énormément. On essaie de faire jouer les non-joueurs comme un peu avec un jeu comme je vous ai emporté justement. Mais jusqu'à maintenant, on a fait des shooters, on a fait des jeux d'aventure, des licences de films. Donc, on a fait un petit peu de tout. On n'est pas barré dans un style en particulier là, jusqu'à maintenant. Okay. On essaie, dans le fond, d'élargir le plus possible le marché puis d'aller chercher des publics nouveaux.
Dis-moi, Émile, puisqu'on t'a aujourd'hui puis que ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir ici, j'aimerais juste revenir sur quelque chose parce que c'est vrai que quand on regarde dans les journaux, à l'heure actuelle, j'ai vraiment le feeling, vraiment l'impression très, très forte que ce qu'a réussi Ubisoft d'un point de vue du marketing à Montréal était vraiment incroyable avec la sortie d'Assassin's Creed. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, personnellement, là, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment deux mondes différents entre ce qui se passe avec les sorties de Ubisoft Québec et ce qui s'est passé avec le phénomène Assassin's Creed où on a vu vraiment le jeu partout. On a vu que ce soit le game designer qui était devenu une vedette, ce qui est un phénomène complètement nouveau aussi, ça, cette espèce de mise de l'avant du game designer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça?
Ben, en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a encore énormément de on voit que le jeu vidéo, malgré ses 30 ans, est quand même quelque chose qui est encore en développement. Comme par exemple, tu parlais de vedettaria dans le monde du jeu vidéo, mais c'est assez rare qu'on a vu ça. T'sais, c'est sûr qu'il y a eu Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario Bros, qu'on a entendu parler, qui est une star, si on veut. Mais je veux dire, tu le croises sur la rue Saint-Joseph, puis tu le reconnais pas. Là, puis il y a justement, avec Assassin's Creed, on a assisté un petit peu à la naissance d'une certaine forme de vedettaria. Il y en avait avant, par exemple, Patrice Desilets, qui est le directeur créatif, ou Jade Raymond, qui est la productrice. Il y en avait quand même avant. Là, par exemple, Michel Ancel, qui est créateur de Rayman, qui est un petit peu une vedette en Europe aussi, mais on assiste justement à une nouvelle forme de vedettariat. Patrice Desilets qui signe des autographes à Arcadia, par exemple.
Tout à fait, oui. Moi, j'étais là et puis vraiment, moi, j'ai vraiment été très, très surpris. Oui. Puis il y a un autre phénomène qui vient avec le vedettariat et puis je pense que tout le monde sera d'accord ici. C'est tout le côté, je dirais, petite nymphette sexy qui vient aussi avec. Parce que là, maintenant, on est en train de développer aussi finalement des super women avec Jeanne Raymond, par exemple, qui devient comme une espèce de sexe symbole, entre guillemets, du jeu vidéo, entre guillemets, on s'entend là. Puis ça aussi, c'est vraiment complètement nouveau. On n'avait jamais vu ça avant. Et puis c'est vraiment impressionnant. Puis ça vient d'Ubisoft. Puis c'est quand même quelque chose d'assez fort. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que toi, tu sais si c'était voulu, cette espèce d'approche marketing en allant vraiment mettre de l'avant des personnes qui, d'habitude, ne sont pas toujours mises de l'avant?
Ben en fait, à savoir si c'est voulu, j'aurais tendance à dire que oui, même si je suis pas derrière les stratégies de marketing d'Ubisoft Montréal. Mais par contre, c'est quand même génial d'une certaine façon si le producteur ou la productrice d'un jeu ou le game designer puisse s'exprimer sur son jeu parce que d'une certaine façon, qui de mieux que lui ou elle est le mieux placé pour parler du jeu en production?
Puis dis-moi, à quand le prochain héros de Ubisoft Québec, ou en tout cas la prochaine vedette d'Ubisoft Québec, comment va-t-il s'appeler? Ou comment va-t-elle s'appeler?
Ah, ben là, on y travaille. Là. On est en train de faire un pool là, avec des votes et tout ça. Puis on va essayer de voir qui va être la prochaine vedette.
Est-ce que tu es bien placé sur la fameuse, sur les fameux votes?
À toi de me le dire, Sébastien.
Dis-moi, je bien vedette de Splinter Cell 5 Québec.
Ah oui, oui.
dis-moi, Émile, tu nous as rapporté aujourd'hui mon mon coach personnel, je pense que c'est le moment d'en parler parce qu'en plus, on va le faire tirer dans quelques secondes.
Exact.
Donc, n'appelez pas tout de suite. On va attendre encore quelques secondes. Le temps que tu nous le présentes.
Oui, ben en fait, c'est un jeu sur la Nintendo DS. Votre collègue, tout à l'heure, lorsque je suis rentré à Sequoia, me disait, ah, ben les jeux vidéo, on entend souvent parler de jeux vidéo violents, puis tout ça. Bien, ce jeu-là, justement, est complètement aux antipodes de ce qu'on peut... Quand on parle d'un jeu vidéo violent, donc c'est un jeu qui vise à faire apprendre l'anglais aux francophones. Donc c'est un coach personnel dans ta Nintendo DS. Donc c'est un jeu sur la Nintendo DS. Ça a été développé à Québec encore une fois. Donc c'est un jeu pour améliorer son anglais. Qui est destiné aux francophones. Donc, à Québec, des jeux comme ça, on en a fait 17 versions différentes. Donc, on en a fait 2 sur la Wii, puis on a fait 13 sur la Nintendo DS. Donc, autant pour que les Allemands améliorent leur anglais, que les Français améliorent leur espagnol ou leur anglais. C'est un outil.
C'est multilinguisme ou c'est juste orienté sur l'apprentissage de l'anglais? Est-ce qu'on peut, par exemple, y apprendre le français?
Sur celui-là, c'est orienté vraiment sur l'anglais. Donc... Je me suis dit que peut-être qu'il y a des auditeurs qui seraient intéressés à améliorer leur anglais ici. Donc, un jeu, est-ce qu'on peut appeler ça un jeu ou un outil? Mais en fait, c'est un jeu pour s'améliorer, pour obtenir un bénéfice réel là, en bout de ligne. Quand on parlait d'élargir le marché, c'est un type de jeu qui n'est pas rare là, de retrouver, là, qui est un peu dans une nouvelle tendance là, ces dernières années.
Je voulais juste ajouter que la Nintendo DS est une console, en fin de compte, portable qui se prête à ça, en fin de compte. On voit beaucoup de jeux qui sortent de l'ordinaire, que ce soit avec Brain Age, que ce soit avec Le Petit Chien, je ne me souviens plus du nom du jeu, ces jeux-là. Donc, c'est une console, en fin de compte, qui a révolutionné dans un sens le jeu.
Parce que c'est une console qui est peu dispendieuse, premièrement, c'est elle qu'on retrouve le plus en ce moment dans les consoles portables sur le marché. Je crois qu'il y en a au-delà de 50 millions sur le marché, donc elle se prête très bien avec ça, avec l'écran tactile, le stylet et tout ça. C'est en voyage ou dans l'autobus, on pratique notre anglais, c'est formidable.
Donc, tu nous as rapporté « Mon coach personnel, j'améliore mon anglais », c'est sur la Nintendo DS et c'est Ubisoft Québec qui l'a développé. C'est évidemment à faire tirer. Vous connaissez tous le numéro de téléphone. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, je vais vous le rappeler. Il s'agit du 529-90-26. Vous allez pouvoir téléphoner dans quelques minutes dès que nous allons faire partir la musique. Évidemment, n'oubliez pas qu'il faut être membre de Sequoia pour pouvoir remporter ce prix. Et à ça, je vais rajouter en plus, parce qu'aujourd'hui, on sent vraiment une âme généreuse, terrifiante, parce qu'on est à puissance maximale et qu'il nous en faut toujours plus, on va dire ça comme ça. Je vais vous rajouter aussi l'autre petit dernier de chez Ubisoft Québec. Il s'agit de Kabuki, qui est un autre jeu développé aussi par Ubisoft Québec. On te remercie aussi beaucoup, Émile Gauthier, pour être venu nous parler de ce qui se passe à Ubisoft Québec. J'espère qu'on va te revoir d'ici très, très peu de temps.
Ben, ça me fait plaisir, messieurs. Moi, c'est toujours un plaisir de venir parler de jeux vidéo avec vous.
Puis j'espère qu'un jour aussi, tu viendras nous parler de musique tout court, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tu es aussi créateur de jeux
musicaux. Dans ma double vie, oui, je suis musicien électronique aussi.
On te remercie encore beaucoup et puis on va te dire à très très bientôt. En ce qui nous concerne, nous, vous auditeurs de CKIA, eh bien dans quelques minutes, nous allons rejoindre, Christian, c'est ça, Christian Lacroix qui va nous parler de jeux de rôle. Donc surtout restez à l'antenne de CKIA, on se retrouve tout de suite après ça, c'est l'émission Puissance Maximale.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, vous êtes sur les ondes de Puissance Maximale, l'émission de jeu sur les ondes de CKIA. Et puis en rediffusion, je n'arrêterai pas de le répéter parce que c'est important. Il est en rediffusion aussi sur lepetitpeuple.fr ou bien bah, si vous avez aussi envie de lire le fanzine Puissance Maximale puisqu'il existe aussi, vous avez juste à taper Puissance Maximale en un seul mot.com. Puis là, évidemment, maintenant, nous sommes avec Christian Lacroix. Christian qui est notre très, 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 très grand spécialiste des jeux de rôle. Il les a tout essayés, il a tout fait, il connaît tout, puis aujourd'hui il va nous parler d'un jeu en particulier. Bonjour Christian.
Oui, salut l'équipe, salut Sébastien, ça va bien?
Oui, bien sûr.
Moi ça va mal, ça tombe bien.
Ça a l'air de pas aller ça, justement. Là.
Donc oui, effectivement, ça va être un billet pour cette chronique Le jeu c'est sérieux. Effectivement, l'heure est grave parce que je vais vous parler de Game Workshop et de du monde Warhammer. Donc, c'est très, très connu, vous savez. C'est d'abord un jeu de figurines, et puis ça a donné... Il y a des jeux vidéo, ils ont envahi là, l'univers ludique, n'est-ce pas?
Mais Christian, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'y viens. C'est que, figurez-vous donc, que le problème de Game Workshop, c'est que c'est une grosse compagnie, OK? Donc, avec des actionnaires, avec beaucoup d'argent, des revenus, tout ça. Compagnie anglaise, par ailleurs, qui a connu beaucoup des hauts et des bas. Donc, dans les années 80, ils ont lancé le jeu de rôle et qu'ils ont jonglé avec plusieurs éditeurs. Il y avait Hogshead, il y en a eu plein. Et puis finalement, pour couper le cordon, et ça a donné lieu à la naissance de ce qu'on a appelé les grognards. Et là, récemment, il y a à peu près 3-4 ans, ils ont créé une nouvelle division, Black Industries, pour repartir le jeu de rôle à la deuxième édition. Alors là, c'était le nirvana pour les amateurs de cet univers-là. Mm-hmm. On était contents. Sauf les fameux grognards, ceux qui ont connu la première vague de coupeurs. Moi, j'étais pas là dans ce temps-là. Mais ils les disent « Regardez bien les avoir-faire comme dans le bon vieux temps, ils vont encore nous lâcher. » Puis on te voit, on a arrêté de vous plaindre. Mais ils avaient raison. Puis là, ils sont contents. D'ailleurs, vous l'avez dit, hein, parce que comme de fait, malgré qu'ils viennent de célébrer leur 25e anniversaire, tout va bien, c'est tout donc bien beau. Et le pire, écoutez bien ça, c'est qu'ils venaient, le vendredi, ils venaient d'annoncer qu'ils avaient tout vendu leur nouveau jeu de rôle qui est Warhammer 40 000.
Okay, c'était un succès?
Oui, Dark Heresy, oui, un gros succès quand même. Il faut dire que, par contre, une inconnue, c'est le nombre de copies. C'est la première impression. Si c'est juste 20 000 copies, je ne sais pas, là, je dis ça, c'est pas un gros succès. Mais juste avec les précommandes, il y avait déjà tout écoulé le stock. Et puis, le Collector's Edition aussi, la version collectionneur, qui coûte un bras, je pense, ça a pris 6 minutes, puis était tout écoulé. Donc, la demande est là. Il y a plusieurs personnes, ça fait 20 ans et plus, qui attendent le fameux jeu de rôle.
Il y a beaucoup de monde qui les suivent, là, puis qui continuent à acheter leurs produits.
Ben oui. Puis là, le vendredi, ils annoncent ça. « Hey, un gros succès, tout est vendu, on va aller en deuxième impression. Hey, ça va bien. » Puis là, le lundi, un petit message plate, là, nous avons le regret de vous annoncer que Black Industries ferme ses portes. Là, et là, ça a donné lieu à des... vous allez sur Internet, là, vous allez voir, il y a des... On est rendu à, je pense, 60 pages et plus de commentaires dans les forums. Là, tout le monde est comme... et je suis encore ébahi.
Mais ça, je suis sûr qu'il va y avoir encore... Les grands fans ne quitteront pas Game Workshop.
Oui, d'ailleurs, on dit souvent qu'un jeu de rôle n'est pas mort tant qu'il est joué encore. Donc, pendant près de 20 ans, Warhammer Fantasy a continué, a survécu, entre autres avec les Français, avec le Grimoire. Mm-hmm. Il y avait une association qui publiait des suppléments. Et les anglophones, Warpstone, ont continué. Donc, là, ça va être ça. Là, ça va dépendre de la communauté qui vont reprendre le jeu. Et ça m'amène à la conclusion, c'est que au niveau de l'industrie, là, je pense que le jeu de rôle, c'est peut-être le moins payant, si on veut, là, au niveau de l'industrie ludique. Si on compare, là, je pense que la branche la plus payante, ça serait peut-être les jeux de figurines ou les jeux de cartes à collectionner qu'on parlait tantôt. Parce que là, vous n'avez qu'à imprimer ça, puis là, vous mettez le prix que vous voulez, vous mettez sous prétexte que c'est ultra rare, puis là, ça se ramasse à des fois 1 000 $ la carte. C'est complètement absurde. Mais donc, imaginez la vache à lait. Là, tandis qu'un jeu de rôle, ça prend une équipe de 6-7 personnes, des illustrateurs, etc. Ça coûte des milliers et des milliers de dollars à produire. Finalement, vous le mettez sur le marché, veut pas, c'est assez niche. Hein, c'est un peu comme il y en a qui comparaient ça au train, là, les trains électriques. Là, c'est presque ça. C'est un petit peu plus quand même là, au niveau du chiffre. Mais bon, donc, le problème, c'est que c'est moins rentable que d'autres. Et Game Workshop, ils font leur argent avec les figurines. Donc, et qui vendent très, très cher. Et donc, c'est ça.
Mais qu'est-ce que nous annonce l'avenir pour Game Workshop? Est-ce qu'on a des choses qui s'annoncent ou est-ce que c'est déjà c'est complètement fini pour
eux? Non. Ben, en fait, il y a une rumeur qui court que Game Workshop fait ce genre de mouvement-là, là, de gestes-là pour provoquer un achat. Donc, parce que là, au niveau de la bourse, ça a chuté. Donc, éventuellement, on pense qu'ils veulent se faire racheter par d'autres compagnies et qui font ça pour se rendre plus intéressant à acheter. Là. Parce que ça faisait du profit, Black Industries, mais un peu moins que d'autres branches. Alors, on pense que c'est ça la stratégie derrière ça.
Mais d'après ce que tu dis, ils l'avaient déjà utilisé une première fois. C'est la deuxième fois qu'ils l'utilisent. Ouais. Si ça marchait une première fois, pourquoi ça ne marcherait pas deux fois?
Oui, mais sur le dos, ce qui est plate, c'est les fans. D'ailleurs, leur argument, c'est qu'ils disaient... on vend plus finalement de romans, hein, de romans dans le monde de Warhammer, donc on laisse tomber le jeu de rôle. Mais il y a plein de monde qui disait, oui, mais pourquoi vous pensez qu'on achète des romans? C'est pour nourrir, n'est-ce pas, notre imaginaire pour faire des jeux de rôle. Il y a un paquet de monde qui font ça. Alors donc, là, il y a un paquet de gens qui appellent au boycott, tout ça, mais c'est pas nouveau avec Game Workshop, c'est juste ça qui est choquant, c'est comme la goutte et j'avoue que c'est pas évident. Mais tu demandais qu'est-ce qui s'en vient, là, juste pour dire, c'est au niveau des jeux de figurines. Ça continue, évidemment, ça n'arrête pas. Et Warhammer 40 000, il y a eu les orques récemment, il va y avoir d'autres sorties. Et puis au niveau Warhammer Fantasy, là, c'est les contes vampires qui s'en viennent. D'accord? Donc les contes vampires s'en viennent très prochainement, là, dans au mois de mars. Et il me reste un peu de temps, j'aimerais ça peut-être parler d'un autre côté à la chose. Parce que là, je parle de fermeture de compagnie ou de ligne. Il y a un bon aspect des fois à ça. Par exemple, moi, j'ai fait une découverte grâce à ça, c'est Dreamblade. C'est un petit jeu à collectionner, de figurines à collectionner. Donc, un jeu de stratégie qui ressemble un petit peu à Eye of Judgment au niveau des mécaniques, un peu, là, mais avec des figurines. C'était fait par Wizard of the Coast.
Est-ce que c'est le jeu qu'on a joué à la journée ludique?
Oui, à la journée ludique, on a joué à ça, d'ailleurs.
Très belle figurine, vraiment, les figurines de très belle qualité, avec beaucoup d'imagination dans ce qui est horrible.
Oui, parce que c'est un peu un jeu de cauchemar, parce que c'est dans l'univers des rêves, donc ça laisse place à les sculpteurs vraiment y aller. C'était vraiment impressionnant. Par contre, c'est 13 ans et plus, là, je donnerais pas ça peut-être à mon petit neveu de 7 ans, là, je ferais des cauchemars. Mais bref, c'est un très bon jeu et j'ai pu découvrir ça. Et maintenant, c'est disponible à rabais parce que les magasins s'en débarrassent, parce que ça a été abandonné. Donc, vous voyez, ça, c'est le bon côté des fois quand il y a des jeux qui sont abandonnés. Les prix, évidemment, baissent, les magasins, les liquides, ça pognera plus. Fait qu'on fait ça vraiment. Donc, sur Internet, je peux vous dire que j'en ai trouvé des versions vraiment pas chères, là, des boîtes immenses à un prix ridicule. Donc, ça, c'est des fois, il y a des bons côtés.
Moi, ce que je trouve fascinant, par exemple, par rapport à ça, c'est qu'il y a vraiment des phénomènes de mode par rapport aux figurines et puis que c'est tout à fait vrai parce que c'est finalement des collections.
Ouais.
C'est uniquement des collectionneurs qui achètent ça. Donc, finalement, pour eux, ce qui est important, ben, c'est ce qui est dedans. C'est ce que tout le monde va vouloir, donc ils vont pouvoir échanger.
Oui, c'est ça. Puis aussi...
Mais est-ce que ça se joue bien? Est-ce que ça se joue quand même?
Oh, tout à fait. Ce jeu-là, je pense qu'il est... D'ailleurs, il est meilleur. Moi, j'en ai essayé plusieurs. D'ailleurs, The Wizard of the Coast, ils ont fait Star Wars, ils ont fait Donjons et Dragons. C'est bien, mais celui-là, Dreamblade, je trouve qu'il va encore plus loin. Ça ressemble plus à un jeu d'échecs. Il y a une espèce de damier, justement. C'est mieux fait. Il n'y a pas de trucs à mesurer. Il y a pas de... Donc, c'est vraiment, moi je trouve que c'est le meilleur jeu au niveau des règles, justement. Par contre, le marché est saturé, c'est ça qui arrive. Voilà, et c'est pour ça qu'on a eu de la bordel.
Merci beaucoup, Christian, pour cette montée de lait, parce que là, il s'agit vraiment d'un gros ras-le-bol.
Oui.
Oui, c'est dit. Une fois que c'est dit, ça fait du bien. Merci de t'avoir de t'être libéré sur les ondes. Ça nous a fait du bien aussi en même temps que toi. Puis, bien maintenant, on va aller rejoindre en France Stéphanie Harvey, qui est notre championne mondiale, internationale de Counter-Strike et qui est la porte-étendard de Puissance Maximale, mais surtout du Québec, puisqu'elle est originaire de Beauport. Donc, juste le temps d'aller la rejoindre grâce à la magie du téléphone. Donc, pour nous, le temps d'une petite chanson. Vous vous en rendrez même pas compte. Et puis, tout de suite après, on se retrouve avec Stéphanie Harvey en direct sur les ondes de CKIA à l'émission Puissance Maximale.
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale.
Et oui, vous êtes toujours sur les ondes de CKIA, c'est-à-dire l'émission Puissance Maximale. Et si tout va bien, parce que le miracle de la technologie va nous le permettre, je l'espère, nous sommes en direct avec Stéphanie Harvey. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Oui, ça fait toujours du bien quand ça fonctionne extrêmement bien. Et on est très 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 content de te recevoir à l'émission, Stéphanie, puisque je vais le rappeler à nos auditeurs. Stéphanie, tu es la championne internationale de Counter-Strike. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce que c'est que Counter-Strike?
Counter-Strike, c'est un jeu, on dit, de first-person shooter, de tir à la première personne. Donc en fait, à l'écran, on voit une mire avec un fusil dans les mains. Et puis moi, je joue 5 contre 5 contre une autre équipe. Je faisais partie de l'équipe américaine. Et le but, dans le fond, c'est des stratégies pour planter une bombe, désamorcer une bombe, tuer ses adversaires, travailler en équipe.
Chose que les gens ne savent sûrement pas, c'est que nous avons ici au Québec, et puis en plus toi tu es originaire de Beauport, donc c'est vraiment à Québec même, nous avons la championne mondiale de Counter-Strike. Tu l'as obtenue en quelle année ce prix-là?
Cette année, cet été, en 2007, j'ai gagné la Coupe du Monde à Paris avec l'équipe américaine dont je représentais les États-Unis.
Est-ce que c'est à l'heure actuelle considéré comme un sport professionnel, c'est-à-dire est-ce qu'on peut en vivre?
Il y a quelques événements qui permettent d'en vivre, oui. Il y a présentement dans le monde, il y a le Gaming Championship Series, CGS, Championship Gaming Series. Ça permet à des joueurs de vivre, oui, un salaire quand même assez modeste. De vivre de jeux vidéo, de professionnalisme. Il y a aussi en Corée, que c'est un emploi très courant, c'est un emploi quand même comme les autres. Mais sinon, c'est trop difficile. Au Canada, il n'y a pas grand monde je pense qu'il doit y avoir 10, peut-être 5 gamers au Canada qui peuvent en vivre.
Puis là, maintenant, aujourd'hui, en tout cas pendant un an, tu vas être en France. Là, il s'agit juste, d'après ce que j'ai pu comprendre, un stage que tu effectues à Saint-Étienne, c'est-à-dire en plein milieu de la France, dans le Massif central. Est-ce que tu as le temps quand même de jouer ou est-ce que c'est juste pour tes études?
Au début, je voulais juste venir ici pour mes études. Par contre, la France est un peu moins exigeante au niveau des études. J'ai pu continuer à jouer. Pour l'instant, je joue simplement pour le plaisir. J'essaie de former une équipe française pour représenter la Coupe du Monde et représenter la France. C'est un gros défi pour moi parce qu'il y a déjà une équipe qui est stable ici, qui représente la France. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'aimerais ça pouvoir jouer pour la France cette année.
Oh, wow, tu vas jouer pour la France. Ça veut dire, est-ce qu'on peut quand même continuer à essayer de t'encourager en tant que Québécois? Tu vas quand même regarder un petit cœur québécois?
Bien sûr, la finale de la Coupe du Monde va être à San Francisco. Donc, cette année, peut-être qu'il y a des gens qui vont se rendre, je ne sais pas. Mais si je me rends jusque-là avec la France, c'est là que je vais être pour les encouragements.
En tout cas, nous, on t'encourage très, très fort. Et puis, je sais qu'il est très tard pour toi. Il est déjà quasiment minuit en France. Donc, on va aller te laisser...
Je suis en train de pratiquer avec mon équipe, alors vous ne me dérangez pas du tout.
C'est vrai. Bon, bah, c'est extraordinaire. On va pouvoir te garder encore pendant 7 minutes. Non, je plaisante. On n'a vraiment plus le temps, malheureusement. Stéphanie, si on a envie de t'encourager en tant que Québécois de Québec, c'est-à-dire si les gens de Puissance Maximale veulent absolument te dire combien ils apprécient ce que tu fais, est-ce qu'il y a un moyen de te rejoindre sur Internet ou de suivre finalement ce qui se passe pour toi?
Oui, bien sûr. Il y a des sites de sport en France, mais le site de mon équipe américaine, que je suis toujours dessus comme étant une joueuse, vous pouvez me rejoindre à n'importe quand avec des messages privés et tout. Le site s'appelle SK Gaming, donc www.sk-gaming.com. Là-dessus, vous allez dans équipe, le team, puis vous allez Counter-Strike féminin, moi je suis là.
En tout cas, nous, on va suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui va se passer dans ta carrière en France. On va surtout essayer de croiser les doigts pour que tu réussisses la Coupe du Monde, même si c'est pour la France, tant pis pour nous. Mais en tout cas, on va sûrement pouvoir te rappeler d'ici très, très bientôt. On te souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit à toi.
Merci à tout le monde. Au revoir.
Salut, bye bye. Et puis nous, ça nous donne juste le temps de passer, eh bien, à la chronique de Mathieu Place qui aujourd'hui nous a parlé de... Il va nous parler de...
D'actualité des jeux vidéo.
L'actualité des jeux vidéo. Et c'est parti à toi, Mathieu. Vas-y, je t'écoute.
Ici, à Puissance Maximale, on aime bien comparer l'industrie des jeux vidéo à l'industrie du cinéma. Et puis, ces temps-ci, les jeux vidéo ont dépassé le cinéma. On trouve ça bien impressionnant. Qu'en est-il des acteurs, justement, qui prêtent leur voix aux jeux vidéo? J'ai un exemple ici d'un acteur. Il s'appelle Kate David. Enfin, on ne le connaît pas de nom. Là, c'est pas Tom Cruise, évidemment, là, mais il a gagné un Tony Award en 1992 et il a été un des co-acteurs de Kurt Russell dans le grand succès d'horreur de 1982, The Thing, La Chose. Alors, ça peut peut-être sonner quelques cloches auprès de nos auditeurs. Enfin, cet acteur-là a fait quelques rôles durant sa carrière, mais ça n'a jamais levé après les succès dont je vous ai parlé. Par contre, il n'y a pas très longtemps, il a prêté sa voix à un des personnages du jeu Halo. Un des personnages qui s'appelle Arbiter, qui est une espèce de alien avec une voix très grave. C'est cet acteur-là qui a prêté sa voix à ce personnage-là. Et puis, en entrevue, de ce que j'ai lu de cette entrevue-là, il dit que ça a relancé sa carrière. Depuis ce temps-là, il se fait demander des autographes. Quand les gens demandent s'il était dans Halo, il répond oui, il peut donner des autographes à des gens. Alors, ça a vraiment ajouté à son védétariat. Alors, il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui ont prêté leur voix à des jeux vidéo, à des personnages de jeux vidéo. Alors, vous avez par exemple Terrence Carson qui était dans un sitcom des années 90, Living Single. Enfin, il a donné sa voix à Kratos, qui est le héros du jeu God of War, exactement. Et ensuite de ça, un dernier exemple, vous avez Michael Ironside qui a donné sa voix à l'agent secret Sam Fisher dans Splinter Cell. Alors, c'est tous des acteurs qui ont plus ou moins réussi leur carrière peut-être au cinéma. Enfin, ça n'a pas levé autant que les grandes vedettes qu'on connaît aujourd'hui. Mais ils réussissent à faire fonctionner leur carrière malgré tout dans les jeux vidéo. Alors, juste pour vous donner un exemple de paye, là, c'est à peu près 760$ pour 4 heures d'enregistrement. Alors, par exemple, un acteur qui fait 3 enregistrements en une journée, eh bien là, ça peut lui donner un excellent salaire. Alors, c'est une des parties des actualités de cette semaine.
Merci beaucoup, Mathieu. Malheureusement, on n'a vraiment plus le temps. On va tous vous souhaiter une excellente semaine. Puissance Maximale, c'était au micro Sébastien Léonard et puis j'étais en compagnie de toute la grosse compagnie, c'est-à-dire Vincent Langlois, Christian...
Lacroix.
Lacroix, merci. mon Dieu, David, c'est ça. Merci David et puis Mathieu Place, ainsi que tous les collaborateurs. Nous recevions entre autres Émile Gauthier de Ubisoft Québec et nous parlions il y a quelques secondes avec Stéphanie Harvey, c'est-à-dire une grosse émission. On vous souhaite tous une très très bonne semaine. On va vous souhaiter aussi de jouer énormément autant que vous pourrez et surtout de venir nous retrouver peut-être sur le site internet de puissancemaximale.com ou alors en rediffusion, comme on n'arrête pas de le répéter, sur lepetitpeuple.fr. Allez, à tous, bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un spécial ludothèque. Oui. Woo!